Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Mes chers frères, la semaine dernière on s'était fixé pour objectif de commenter les versets depuis Wujuhun Yawma'idhin Na'ima jusqu'à la fin de la description du paradis. Parce qu'après, Allah Azza wa Jal va passer à un autre discours. Allah Azza wa Jal, il passe du discours descriptif, après avoir fait la description de l'enfer, la description du paradis, Allah Azza wa Jal va interpeller l'être humain de par sa compréhension, de par son intelligence. Ô vous, être humain, si vous êtes intelligent, si vous êtes doué de conscience, si vous êtes capable d'observer la création des cieux, de la terre, des créatures d'Allah, vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'y a pas un Dieu qui est à l'origine de tout ce que vous voyez, en prenant comme exemple un animal, l'animal le plus extraordinaire sur la terre, le chameau, d'accord? Et en prenant comme exemple les montagnes, la terre, le ciel, etc., etc. Mais avant d'arriver à cette interpellation de l'être humain de par sa conscience, Allah Azza wa Jal décrit la deuxième catégorie de personnes qui a de Suratul Rashia, Wujuhun Yawma'idhin Na'ima, ces personnes qui auront le visage épanoui, comme on l'avait expliqué la dernière fois. Et pourquoi le visage épanoui? Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi dans ce monde en ayant atteint un degré d'études ou un poste qui faisait envier les gens, etc., etc., ou alors une certaine notoriété dans la société, ou alors ils s'étaient mariés à la plus belle femme du monde, ou ils avaient les plus belles voitures. Non, ce n'est pas ça. Ils ont le visage épanoui de le dunya. Ceux qui ont le visage épanoui, ce sont ceux qui ont tout ça. Vous voyez? Mais le jour de Qiyamah, ceux qui ont le visage épanoui, c'est quoi? C'est quoi la raison qui fait que ces gens seront heureux le jour de Qiyamah? Uniquement parce que parce qu'ils ont passé une vie dans l'obéissance d'Allah. Et quand un être humain passe sa vie dans l'obéissance d'Allah, depuis sa jeunesse jusqu'au dernier moment, comme Malik al-Maud reprend l'âme, alors cette personne, lorsqu'elle retourne auprès d'Allah, elle retourne satisfaite. Et cela rejoint le tafsir qu'on avait fait il y a quelques mois. « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna » C'est un ruh, un nafs qui est tranquille, apaisé, qui est accueilli de la meilleure des façons par l'ange de la mort et par les anges qui précèdent la venue de l'ange de la mort et qui annoncent à cette personne que Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et qu'est-ce qu'on dit à cette âme apaisée? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. On annonce cette bonne nouvelle que maintenant tu peux retourner vers ton Seigneur et qu'Allah est satisfait de toi. Comme les sahaba, ils ont eu radiyallahu anhum wa radu anhu, mais dans ce dunya, de leur vivant, le mu'min, inshallah, il aura cette bonne nouvelle de l'approbation, du contentement d'Allah. Mais ce sera, inshallah, au moment de quitter ce dunya. Et cela rejoint ce qu'on avait essayé d'expliquer la semaine dernière lors du discours avant la salatul jumu'ah. Donc, on avait expliqué la dernière fois, wujuhun yawma'idhin na'ima, ça s'est fait. Lisa'iha radiya, également, ça s'est fait. Et on avait dit que, comment est-ce qu'on obtient le contentement d'Allah? C'est en alignant les deux choses en même temps. En même temps, j'accomplis les bonnes actions. En même temps, je fais ma salat, ma zakat, mon hajj, mon ramadan. En même temps, dans les relations avec les gens, je suis au top, principalement avec mes parents, ensuite mon épouse, ensuite ma famille, ensuite mes voisins, ensuite les proches, les éloignés et les gens d'une manière générale. Dans ma manière de travailler, je recherche le halal, etc., etc., de mon akhlaq. On avait expliqué ça la dernière fois, c'est un tout. Quand on dit l'accomplissement de bonne action, il serait bien égoïste celui qui croit que passer l'essentiel de son temps dans la mosquée, dans la prière de la nuit, dans la lecture du Coran, de la dhikrullah, ça l'amène au paradis alors qu'à côté de lui, son voisin de palier ou la maison d'en face, il y a une famille musulmane qui meurt de faim ou un père de famille qui n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de ses enfants, surtout à la fin du mois. Bien égoïste et bien inconscient serait ce musulman qui croit que Allah est satisfait de moi parce que je passe des longues nuits dans la prière et dans la lecture du Coran, alors que son voisin n'a rien à manger, alors que son cousin, que son beau-frère, que son oncle, que tel proche est dans la difficulté et qu'il ne prend même pas le souci de ces personnes, qu'il ne va pas rendre visite à telle personne de sa famille qui est malade, qui est souffrant, qui est à l'hôpital. Bien malheureux, bien inconscient et bien égoïste en même temps, cette personne qui croit que le culte uniquement c'est ce que veut Allah Azza wa Jal. Tout comme serait bien inconscient celui qui croit que uniquement par le culte, même si dans la société mon comportement n'est pas correct, Allah va m'accepter. Sachant que dans les hadiths, il est écrit que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance au jour de Qiyamah, ce sera quoi? Al-khuluqul hasan, le bon comportement. Mais également dans l'autre sens, ce musulman qui croit que moi j'agis de la meilleure des façons avec les gens, j'aide les personnes en difficulté, mais je ne ressens pas le besoin de faire les 5 salats. Lui aussi est dans la perdition. Donc, l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est un tout, mes chers frères. Comme on l'a dit, Allah sera satisfait de nous si je fais les 2 choses. J'accomplis les bonnes actions avec les 10, les 15 de branches qu'on vient d'expliquer, et en même temps, je m'éloigne totalement du haram. L'un marche avec l'autre. Je n'avance pas tant que je ne m'abstiens pas du haram. C'est comme si je fais un pas en avant et un pas en arrière. Après 10 ans, je suis où? Je suis au même endroit. Après 50 ans, je suis où? Au même endroit. Parce que j'ai fait 10 pas ce soir et demain matin, je fais 5 pas ou 7 pas en arrière. Rien que dans le Ramadan, il y a un bon coup de pouce, j'avance un peu plus. Mais après le Ramadan, mes péchés vont grignoter tout ce que j'ai cumulé et je reviens au point zéro. Donc c'est un tout, mes chers frères, que l'obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal, accomplissement des bonnes actions et l'éloignement de tout ce qui est haram. Et je demande à Allah Azza wa Jal de me donner moi-même en premier et à nous tous le tawfiq de comprendre c'est quoi la réalité de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces gens-là, dont on a expliqué quelle sera l'attitude, quelle sera la joie qui habitera leur cœur et l'apaisement qu'il y aura sur leur visage, où seront-ils, quelle sera leur destination? Fi jannatin aliya, dans un haut jardin. Alors mes chers frères, le jannah a été créé par Allah Azza wa Jal pour les muttaqin, pour ceux qui ont cru en lui, qui ont cru en ses promesses. Et c'est ça le plus important, croire à ce qu'Allah a promis. Et ça c'est la première qualité du musulman, de croire en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Si je crois en l'invisible, je crois en ce qu'on appelle al-wa'd wal-wa'id. Je crois aux promesses d'Allah. Si je fais ça, j'aurai inshallah telle chose. Mais je crois également au wa'id. Je crois également aux mises en garde d'Allah. Si je ne fais pas ça, ou si j'accomplis tel péché, Allah sera mécontent de moi. Et si Allah est mécontent de moi, alors Allah Ta'ala réserve telle punition pour ceux qui ont couru sa colère. Donc ils seront dans ces hauts jardins. Alors mes chers frères, on sait tous comment notre prophète alayhi salatu wassalam a décrit le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a décrit le paradis en nous expliquant que, tout simplement, il est indescriptible. Qu'Allah Ta'ala donne certaines mouassafa, descriptions du paradis, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même explique que le paradis, il y aura telle chose, telle chose, telle chose. Écoutez, essayez de comprendre, mais vous ne pourrez jamais comprendre. Parce que là, je suis en train de vous décrire quelque chose qui est à la frontière de l'autre monde, du alamul ghaib, du monde de l'invisible. Et comme il y a une frontière entre le monde réel, le monde de ce dunya, et le monde de l'invisible, jamais vous ne pourrez comprendre la réalité de ces paroles. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique la description du paradis, le prophète nous donne des indices pour qu'on ait une idée de la beauté du paradis, de la perfection de ses bienfaits. Ça, on avait bien expliqué la dernière fois, la notion de perfection, de durabilité de ses bienfaits. On ne parle pas de durabilité, les bienfaits sont tout simplement infinis. Donc, notre prophète a décrit par un hadith très connu, le paradis est « Fima la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. » Ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ. De ce verset, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. De ce verset, Allah Ta'ala, il explique aux musulmans que personne ne sait qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a réservé comme plaisir des yeux. Personne ne sait ce qu'Allah leur a réservé comme plaisir des yeux. Et ça, c'est rétribution pour ce qu'ils accomplissaient. Fala ta'alamu nafsum, personne ne sait. Alors que les descriptions du paradis sont nombreuses dans le Coran. Dans ce sourate, par exemple, qu'on va voir, et dans d'autres passages du Coran, les descriptions du paradis de la bouche bénie du Prophète sallam sont très nombreuses également dans les hadiths. Mais malgré ça, Allah Ta'ala dit, mais personne ne sait. Fala ta'alamu nafsum. Avec toutes ces descriptions, tous ces détails qu'il y a dans les hadiths, il est décrit même quelle sera la consistance du sol du paradis. Quelle sera la couleur du sol du paradis? Comment seront les demeures? Comment seront les telles choses, les fleuves, les jardins, les arbres fruitiers, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué. Mais pour vous dire comment le paradis est décrit en détail, et le hadith jusqu'à la consistance du sol, la couleur, la texture du sol, ça aussi, c'est décrit dans le hadith. Mais malgré toute cette précision de la description, Allah dit « Fala ta'lam ». Vous ne savez pas. Personne ne sait ce qu'Allah Azza wa Jalla, ce qu'Allah Ta'ala a réservé comme plaisir des yeux. Alors, comme plaisir des yeux, et là, ça rejoint cette règle, quand on parle de qurratu a'yun, plaisir des yeux. C'est quoi un plaisir des yeux de ce dunya? Et c'est quoi un plaisir des yeux dans l'au-delà? J'achète une voiture neuve, magnifique, la voiture dont je rêvais, une BMX 6, intérieur cuir, boîte auto, vraiment le top, top du top, 130 000 euros. D'accord? C'est un plaisir des yeux, oui ou non? Oui, je vais à là-bas, je ne sais pas où ça s'appelle, à Cotran, je ne sais pas quoi, je récupère les clés, Inch'Allah, hein, financement halal, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un plaisir des yeux, je regarde, je suis heureux, je suis content, je m'assois dedans, ah, je suis. Il y a quelque chose. L'être humain est attaché à ce genre de choses. On ne va pas dire que non, moi, même pas de dunya, je suis un grand saint. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde aime ça. D'accord? Je monte chez moi, je vais ressortir par la fenêtre pour regarder. Dans la nuit, je me réveille, je vais regarder. Demain, je suis pressé d'aller Fajr en voiture. Je suis pressé d'aller au travail. Maintenant, on est pressé d'aller au travail parce qu'il y a la belle voiture. Il y a le confort, vous asseyez, il y a la ceinture qui vient automatiquement, il y a le GPS qui s'allume, il y a tout ça, tout ça, tout ça. C'est un plaisir des yeux. D'accord? Mais ça dure combien de temps ce plaisir des yeux? Combien de temps vous allez vous exclamer devant la beauté de l'intérieur, de l'extérieur, du vrombissement, du moteur, etc., etc. Une semaine? Un mois? Deux mois? Yani, allez, un mois maximum. Pendant un mois, vous allez exulter en entrant dans la voiture. Vous allez passer fièrement près des gens et tout, montrer que j'ai un pouvoir d'achat, j'ai pu me payer cette voiture. Mais après, mes chers frères, je connais une personne qui a tiré une grosse voiture. Au début, il est très content et tout, une 4x4. Mais je revois sa voiture après presque, allez, 6-7 mois. Je vois déjà le pare-choc s'écraser, il a fini fait créneau. Au départ, en fait, créneau. Faites très attention, les paradigmes reculent. Faites très attention, il ne touche pas du tout. Mais après, à un moment donné, il fait créneau comme l'a gagné. L'accrocher, bon, allez, on est pressé. C'est-à-dire que le plaisir des yeux de ce dunya est limité. Et on peut comparer avec n'importe quoi, que ce soit voiture, que ce soit une jolie femme, que ce soit, je ne sais pas, ce que vous voulez, une maison, quelle que soit la chose. Pour qu'on comprenne bien, mes chers frères, que les plaisirs des yeux de ce monde, d'une manière générale, les plaisirs de ce monde sont éphémères, ça va se tarir, ça se terminera un jour. Soit c'est moi qui pars avant ma voiture, soit c'est ma voiture qui part avant moi. Mais au-delà de ça, au-delà de ce caractère éphémère, le plaisir, la notion de plaisir est limitée dans le temps. Parce que la nature humaine est faite ainsi. On se lasse de tout. Ça, on l'a expliqué mille et une fois. Mais le qurratu a'yun du paradis, le plaisir des yeux du paradis, ça, c'est un autre niveau. C'est le niveau de plaisir de akhirat, incomparable avec plaisir de dunya. Tout comme qu'Allah nous protège, le niveau de douleur, de tristesse de akhirat, c'est un autre niveau, incomparable avec la tristesse, la douleur de ce monde. C'est pour ça que l'homme le plus malheureux de ce dunya, le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala amènera l'homme qui a le plus souffert de ce monde. Je ne sais pas où est-ce qu'il habite, mais pas à La Réunion en tout cas. Peut-être c'est quelqu'un qui est à Haïti, peut-être c'est quelqu'un, je ne sais pas, il a subi, il a perdu sa famille, il a perdu ses biens, il est malade, il est paraplégique, il est nasalaf, il a cancer généralisé, tout. Dialyse, l'homme le plus malheureux au monde. Cet homme-là sera amené à goûter ou à voir, j'ai un doute sur les termes du hadith, soit qu'il entrera, soit il verra, une seconde le jannat, alors que les gens sont encore dans le mahshar. Après cette seconde passée, Allah Ta'ala le retire. Pas 10 minutes, à une seconde. Allah Ta'ala lui demandera, rappelle-moi, de quoi tu souffrais dans ce dunya? Dis, oh Allah, de rien du tout. Je sais plus. La tête une toinée là. C'est l'effet. C'est pas le ça fait un pays là, c'est un autre niveau ça. Il a vu une seconde, ou alors il est entré une seconde dans le Jannat, il oublie sa maladie, sa pauvreté, ses difficultés, sa famille, tout, tout, tout. Ça, il faut qu'on comprenne, mes chers frères. Ça, c'était l'homme qui a le plus souffert. C'est-à-dire, il a atteint, faut pas dire de gros mots, le paroxysme, le maximum de souffrance dunyawi de ce monde. Maintenant, vous prenez sa conception de la souffrance de ce monde, transposez-le dans le akhirat, c'est comme un grain de sable. C'est rien du tout. Et essayez d'équilibrer avec une seconde du plaisir du akhirat, vous oubliez tout. Quand quelqu'un, par exemple, il a subi, je ne sais pas moi, quelqu'un a été agressé, ou alors je ne sais pas, licencié, licenciement abusif, ou je ne sais quoi, ben, le tribunal, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des dommages et intérêts. Hein, que le coupable il fasse réparation à la personne qu'il a lésée. C'est-à-dire, si par exemple, je ne sais pas moi, il vous a frappé, je dis n'importe quoi, hein, ben vous êtes compensé, il vous doit 2000 euros, 3000 euros, etc., etc. C'est comme une compensation, c'est psychologique. Et peut-être avec les 3000 euros, on va peut-être oublier le coup de poing ou le coup de pied, je ne sais quoi. Mais de l'akhirat, c'est un autre niveau, ça. Vous amenez une vie de douleur, une vie, mes chers frères, 60, 70 années de douleur. Et vous avez une seconde de akhirat, de bonheur, vous oubliez tout ça. Mes chers frères, ça c'est haq, ça c'est la vérité. Ça c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est min qurrati a'yun, le plaisir des yeux du akhirat. C'est un autre niveau. Hada. Jaza'an bima kanu ya'amaloun, c'est en rétribution, en récompense pour ce qu'ils ont œuvré. Mais en fait, mes chers frères, le paradis qu'Allah accorde aux ahlul iman, ce n'est pas une récompense juste pour juste par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est bien au-delà de ce qu'on mérite. Quand Allah nous donne accès au paradis, Inch'Allah, ce n'est pas parce que moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est parce qu'Allah Ta'ala certainement a vu notre bonne intention, notre désir de nous rapprocher de lui. Mais nos actions sont tellement minimes, imparfaites, bancales et peut-être sales, que ces actions-là ne doivent même pas nous faire approcher de 10 mètres du paradis. Mais c'est par pitié, par rahma, par clémence qu'Allah nous fait accéder au paradis. Parce que dans notre cas, il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et que je voulais me rapprocher d'Allah, et que j'étais sincère. C'est pour ça, mes chers frères, vous savez que lorsqu'un musulman accomplit une bonne, à l'intention de faire une bonne action, il lui est déjà inscrit la récompense. Par exemple, là, je demande à chacun d'entre nous, on fait niyad, ce soir on se réveille à Hajj. Faites niyad, dites Inch'Allah. Ben là, ayez yaqin dessus, mes chers frères. Avec cette intention, on a déjà la récompense du Qiyamul Layl. Wallahi l'azim. Ça, c'est la promesse du prophète, promesse d'Allah par le biais des paroles possibles. Maintenant, si quelqu'un le fait, les récompenses peuvent monter jusqu'à 1000, 2000, 3000. Wallahu ta'ala a'lam. Allah seul sait jusqu'à combien il peut rétribuer pour une action qui a été accomplie. En fonction, il y a différents paramètres, en fonction de la difficulté du contexte, en fonction de la sincérité, etc. D'accord ? Donc, dans les rétributions, on est surpayé, nous, alhamdulillah. Et face au péché, lorsque le musulman accomplit un péché, par exemple, sortant de la mosquée, son regard est tombé sur une femme étrangère de manière accidentelle. Il a baissé le regard. Mais après, il a décidé de re-regarder pour voir s'il n'a pas oublié des détails. C'est un péché, oui ou non? C'est un péché. Est-ce que l'ange écrit tout de suite? Non, je n'écris pas tout de suite. Le hadith explique que les anges attendent un laps de temps. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que cette personne demande taouba. Ils attendent. Et si la personne demande taouba, le péché est oublié, Inch'Allah. Maintenant, si la personne n'a pas demandé, elle a continué à faire d'autres péchés, là, le péché est inscrit, mais une seule fois. Ça, c'est la clémence d'Allah. Donc, jaza'an bima kanu ya'malun, oui, mais Allah Ta'ala nous donne beaucoup plus que ce que normalement nous méritons. Comme ça me dit, personne n'entrera dans le paradis par ses bonnes actions, hein, si ce n'est pas, en ce sens, si ce n'est pas la clémence d'Allah. Et une question que je vous pose, mes chers frères, est-ce que c'est difficile d'accéder au paradis? Non, pas difficile. Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. On a tous lu le firdaus nuzula. Non, vous avez lu? Moi, j'ai pas lu. Allah pardonne. Normalement, on aurait dû lire. La recette pour aller au paradis, le schéma est simple. Iman et a'mal salih. Normalement, c'est simple. Mais dans le fond, c'est quoi l'accomplissement des bonnes œuvres qu'Allah attend de nous? Ces œuvres-là, entre autres, c'est expliqué dans le début du 18e siècle. Entre autres. Dans lequel Allah explique Oulaïka hum al-warithun, alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Ces gens-là, ils auront le paradis, le firdaus, et ils y entreront éternellement. Et Allah Ta'ala va citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 ou 7 sifat, qualités requises chez un musulman pour qu'il puisse, Inch'Allah, accéder au paradis. Le schéma est simple, mais quand on analyse, il y a quand même des conditions qu'on doit respecter. C'est comme si je prends un schéma tout à fait différent du dunya, quand on dit que dans un match de football, par exemple dans un match, est-ce que marquer un but, est-ce que c'est facile de gagner un match? Oui, facile. Il suffit de pousser le ballon dans les buts. Si le ballon a franchi la ligne blanche entre les deux poteaux, on a marqué. Et si on marque, on gagne. Ça a l'air d'être simple. Mais après qu'on regarde, on approfondit. Oui, mais attention, ça c'est le, qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à la victoire. Maintenant, il y a la défense. Maintenant, il y a organisé l'attaque. Maintenant, il y a le milieu, il y a le schéma, il y a la tactique, il y a les règles à respecter. Il ne faut pas faire des fautes, sinon, etc. Il ne faut pas toucher la main, etc. Plein de choses. Ce qui fait qu'on analyse les points avec précision, on se rend compte que tout compte fait, il y a beaucoup de choses qui sont requises pour avoir cette victoire. Le Jannat, l'accès est ouvert pour ceux qui ont la foi et qui accomplissent des bonnes actions. Il faut avoir des qualités. Et dans « Qadha falaha al-mu'minun », Allah Ta'ala explique « Qadha falaha al-mu'minun » Premièrement, alladhina hum fi salatihim khashi'un. J'ai pas amené la traduction de Khatab al-Hal Mu'minun et j'ai pas envie de dire des bêtises, mais on dira à peu près qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs. Allah explique que les musulmans, ils ont eu la victoire, le falah, la consécration. Qui sont ces gens-là? Ceux qui vont accéder au paradis, d'accord? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui étaient, comment on pourrait dire ça, qui faisaient preuve de conscience, qui étaient consciencieux, appliqués et concentrés, qui faisaient preuve de dévotion dans leur salat. Ceux qui faisaient preuve de dévotion de leur salat. Alors, en regardant le tafsir de Alladhina hum fi salatihim khashi'un, tafsir de As-Sa'di rahimahullah, il explique c'est quoi? Quelles sont les conditions pour faire partie des gens qui font preuve de concentration et d'application de khushu', de dévotion de leur salat? Il faut shudurul qalbi bayna yadayillah. Quand on est devant Allah, le cœur y est. C'est-à-dire, il y a la concentration dans ma prière. Il doit y avoir sukunul qalb. Quand je suis devant Allah, je dois avoir le cœur apaisé. Je ne dois pas avoir l'esprit qui vagabonde, qui va à droite à gauche. Quand je fais la salat, le cœur doit être déjà apaisé. C'est pour ça que les ulama disent que quand on fait les sunnat avant la salat, les rawatib, les nafil, c'est avant la salat, ça permet d'entrer dans la salat. Vous allez vous concentrer, vous apaiser. Au moins, quand on commence le faraz, on est déjà apaisé. Tama'ninatul qalb, le cœur tranquille. Bon, il y a une petite différence entre sukun et tamanina, mais on peut regrouper ces deux-là dans une même chose. Wataskunul harakat. Lorsqu'on est dans la salade, il n'y a pas de gestes inutiles. On n'a pas à se gratter 15 fois la tête ou les oreilles, etc., ou enlever des trucs sur les vêtements, etc., etc. Le corps obéit à Allah. Quand je fais la salade, c'est tout mon corps qui obéit à Allah. Vous savez qu'on fait ces deux-là, par exemple. Vous savez que les pieds, les doigts de pied, les orteils doivent être orientés vers la Qibla. C'est-à-dire le corps entier s'oriente vers la Qibla. Tout ça, c'est des détails, mais c'est important. C'est extrêmement important. Le corps entier, depuis la tête jusqu'aux pieds, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que chaque partie du corps a une position précise à la salat. Si cette position n'est pas respectée, la salat peut être makrouh, mais elle peut être également batil. Elle peut être également annulée. D'accord? Hada. Où est-ce qu'on était? Hada. وتسكن الحركات c'est-à-dire ne pas bouger, etc. والتأدب بين يدي الله, faire preuve de respect, prendre conscience qu'Allah me voit à ce moment précis et faire preuve de respect quand on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. استحضار جميع ما يقول ويفعل, que la personne soit concentrée sur tout ce qu'elle dit et sur ce qu'elle fait. C'est pas que j'ai l'alhamdou comme je lis une poésie, c'est pas que je dis Allahu ahad, non, ce que je lis, je réfléchis là-dessus, je médite, je réalise ce que je suis en train de réciter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela implique le fait qu'il n'y a pas de waswasa ou d'autres pensées dans la tête, qu'on ne pense pas à notre magasin, à notre épouse, aux problèmes, etc., etc. Il dit que ça, c'est du début jusqu'à la fin. Depuis Allahu Akbar jusqu'à Salamu alaykum wa rahmatullah. Cette concentration, cette dévotion, cette présence de cœur, ce contrôle de soi, totale jusqu'à la fin de la salade. Ça, c'est une salade dans laquelle il y a la concentration. Il explique en conclusion que une personne qui accomplit la salade sans cette dévotion, sa salade va compter. Il n'y a pas à faire kaza, la salade compte. Mais il faut qu'on sache que Allah rétribue également, la salade sera rétribuée en fonction de cette dévotion, en fonction du khushu' qu'il y avait, la salade sera rétribuée. Imaginez que ma salade à moi, en termes de récompense, ne vaut pas un millionième de la salade d'Abu Bakr al-Siddiq. Ça, on comprend. Tout le monde a réalisé ça. En fonction de la dévotion qu'il y a dans leur salade, Allah Ta'ala va rétribuer. Il y avait cette anecdote, c'est une histoire qu'on a déjà entendue peut-être avant. Il y avait un imam qui n'est pas ici, hein. C'est une histoire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux aussi. C'est un exemple. Un imam qui officiait la salade, apparemment il faisait une namaz Isha, bon je retrace l'histoire, il faisait une namaz de 4 rakats, d'accord? Et il s'était trompé, il a fait 3 rakats. À la fin de la salade, personne ne fait de remarque au imam. Il y a une personne qui dit, imam Sab, tu n'as pas fait 4, tu as fait 3 rakats. L'imam dit, ben non, personne n'a fait de remarque à part toi. Comment tu veux être sûr de toi? Elle dit, mais il est sûr. Dis-moi, il y a 4 magasins. Dans chaque rakat, il fait le compte du magasin, de chaque magasin. Ou il a fait 3, il manque un magasin. Ce n'est pas possible, il a fait 3 rakats, mais il est sûr. Ça, c'était son bilan comptable. Il était persuadé que l'imam a fait 3 rakats. Il avait raison, en fait. Parce qu'il manquait un magasin à la fin du compte. D'accord? Allah, c'est une anecdote. Ça peut être faux, mais c'est juste pour qu'on comprenne que ça peut aller. Et ça, on est tous conscients. Allah, c'est une. Que pour beaucoup de gens, Allahu a'lam, heureusement qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais à partir du moment où on commence Allahu Akbar, et c'est parti, là c'est match, là c'est Champions League, là c'est je ne sais quoi, Coupe du Monde, là c'est le magasin, là c'est les dettes, là c'est la facture à régler, là c'est les courses à faire. C'est comme si qu'il y a une connexion. Au lieu de se connecter à Allah, quand on commence en salat, il y a le haut débit qui va vers le dunya. Et quand on fait salam alaykoum, et parfois dans la salade, vous pensez à des choses que vous avez oubliées depuis des mois et des mois. Tim, tu as fait namaz, ma pensée à l'affaire, là, tout d'un coup. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent, Tim, tu as fait namaz, mais il y a une bonne idée. Subhanallah, il dit, mais tu as fait namaz, mais il y a une bonne idée. Mais non, il n'y a pas de bonne idée dans la salade. Tu es devant Allah, tu dois respecter les conditions qu'on a citées. Allah musta'an. Et après le salam, vous savez, côté comment vous avez pensé tout ça. Comme si on a fait une réflexion des heures et des heures, alors que c'était l'équivalent de 6 minutes. Il faut savoir, mes chers frères, que dans cette salade, il y a un shaitan. Son nom m'échappe. Khinzab ou Khinzib, Khinzab, je pense. Qui est là spécialement pour faire les waswasa, les insufflations, pour que la concentration du mu'min, du musalli, quitte Allah Azzawajal. Il quitte l'optique qu'il est devant Allah et qu'il doit se concentrer, il doit réfléchir sur ce qu'il dit, sur ce qu'il va faire, ses gestes, pour aller vers les pensées mondaines. Et ce Khinzab, il réussit, Allah musta'an, dans 90% des cas. Illa man rahimallah. Sauf ceux pour qui Allah a décidé qu'il reste concentré. Donc, mes chers frères, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand Allah ta'ala dit, qu'adam al mu'minu alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ce n'est pas juste alladhina yusallun. Non. Ou alors alladhina fi salatihim da'imun. Qui font tout le temps ça. Non. Faire la salat tout le temps, oui. Mais de quelle manière? Avec khushu'. Ça, c'est ahlul iman. Ça, c'est des gens qui essaient de paradis. Ensuite, là aussi, j'ai pas pensé à écrire la traduction et j'aime pas m'aventurer dans la traduction. Ceux qui s'éloignent des choses qui sont futiles, Allahu. Et en commentaire, Sa'di Rahmallah explique Allahu, c'est les paroles qui sont inutiles. En arabe, on appelle ça kalam fardi. Des paroles stupides, des paroles bêtes qui n'amènent à rien du tout. Ça peut être la médisance, ça peut être la calomnie, ça peut être le fait de colporter, qila waqa, etc., etc. Ça peut être le fait de prononcer les sous-ouvans, les mauvaises pensées qu'on a. Nous gardons un monde, ça, boubla, ça, il sort, ça, un peu un monde ici, ça. Ça, un là pour avoir de l'argent, ça, un là pour marier, ça, un là pour telles affaires. Et je vais dire à mes amis, boubla, là, fais attention, s'il y a un waouh, là, ça, il va. Ça, c'est les sous-ouvans, ça, c'est Shaitan, mi, affilmi, à 100%. Le fait de traduire ça, tout ça, ça fait partie des paroles futiles et inutiles. Et on comprend à travers ça, le fait de contrôler sa langue. Je demande qui parmi nous peut donner la garantie que depuis ce matin Fajr jusqu'à Isha, j'ai contrôlé vraiment ma langue comme il le fallait. Celui qui peut le dire, alhamdulillah, je le respecte. Total respect. Mais c'est difficile. Bien sûr, ceux qui donnent la zakat, attention, ceux qui donnent la zakat, et j'ai lu un commentaire sur Subhanallah il y a quelque temps, un alim qui écrit que celui qui donne la zakat, logiquement, c'est quelqu'un, pas logiquement, il dit, il est inconcevable qu'une personne qui donne la zakat consomme de l'intérêt ou utilise une transaction illicite. Pour lui, il est inconcevable. Si je donne à Allah Azza wa Jal son droit concernant les biens, concernant l'argent, il est inconcevable, contradictoire, paradoxal qu'en même temps, de ce bien-là, je l'utilise d'une manière haram. Il a dit de la même façon, quelqu'un qui utilise de l'argent, du riba, de l'intérêt, je ne peux pas imaginer que cette personne paye la zakat. Alors que de nos jours, ça se fait. Il y a, subhanallah, Allah, subhanallah, combien de personnes qui utilisent de l'intérêt dans les emprunts ou alors pour réclamer. Combien de personnes, ils voient une belle voiture, ils veulent l'acheter, ils n'ont pas les moyens, ils vont s'endetter, ils vont prendre un crédit à un taux de 5%, ils le paient en 7 ans, 8 ans, 10 ans, avec l'argent haram, cet argent haram dont ils verront les conséquences du Qiyamah, qu'Allah nous protège et nous pardonne. Donc, combien de personnes utilisent de l'argent de l'intérêt, mais tout naturellement, arrivé le mois de Ramadan, l'autre période de l'année, peu importe, la personne donne sa zakat. Mais si on regarde bien, c'est paradoxal. Je ne peux pas en même temps considérer que ça c'est l'argent impur, mais je le prends. Mais en même temps, je purifie mon argent, je recherche le contentement d'Allah à travers mon argent. Mais ça, ce genre de réflexion de ce alim, c'est halal fitra. C'est une personne qui réfléchit de manière saine. C'est un musulman qui comprend ce qu'il pratique. Si je ne comprends rien, un zakat, il faut donner comme un impôt, et là, je vais consommer de l'intérêt ou autre chose. Mais normalement, le musulman qui paye sa zakat, il ne peut pas consommer de l'intérêt. Ah, plus compliqué. « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ » Ceux qui, je n'ai pas la traduction, Allah musta'an, ceux qui protègent leur partie intime, ainsi ce n'est avec leurs femmes ou alors ceux qui sont sous leur propriété, etc., etc., ça s'autorise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ulama, ils disent que ce n'est pas juste le fait de ne pas faire le zina, c'est également tous les préambules du zina, tout ce qui emmène vers le zina. C'est-à-dire qu'avant tout, la première étape, c'est quoi? C'est une personne déjà qui ne touche pas une femme étrangère. C'est une personne qui ne regarde pas une femme étrangère avec passion. De Bayan Jumaa, à Grand Masjid, une personne, celui qui faisait la prêche, expliquait que beaucoup de gens, après le Salat al-Fajr, ils s'envoient immédiatement. Ils ne font pas le décollage, rien. Et ça, c'est extraordinaire, ça. Si nous savions, mes chers frères, quelles sont les récompenses qu'il y a pour ce musulman qui, après le Namaz Fajr, reste assis, il ne décroise pas ses jambes, et il lit 10 fois « La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir » 10 fois. Ensuite, Allahumma la mani ali ma'atait wa la mu'ati li ma mana'at wa la yanfa'u dhal jadd min kal jadd. Personne n'irait tout de suite. Et il est en train de dire, mais pourquoi on va aussitôt? Il a dit qu'il y avait un alim de l'étranger qui était venu, il a vu ça, il a observé ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ces gens-là, ils travaillent dans les champs, qu'ils doivent aller vitement pour aller travailler dans les champs? Ou alors, est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants à la maison pour réveiller tout le monde? Il y a besoin de beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont aussi pressés? Ou alors, est-ce qu'il y a un boulanger pour 100 000 habitants? Qu'il fait juste sans baguette, si on n'y va pas, il n'y aura rien à manger. Là, wallah, je ne sais pas. Wallah, Mustan. Et qu'est-ce qu'on remarque en parlant de le fait de ne pas toucher une femme étrangère? Moi, je vois ça. Parfois, on va acheter le pain, le fajr, le namaz. Je vois une personne qui sort namaz, il fait salat en jamaat, fajr, vous réveillez tout. Il va acheter son pain, je ne dirais pas le nom de la boulangerie. Et bonjour à la caissière, bonjour, donne la main et une baguette, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu as besoin de faire ça, mon frère? Si tu ne donnes pas la main à la caissière, il ne te donnera pas ta baguette? Mais attends, la politesse, c'est de dire bonjour madame. Vous donnez la monnaie ou l'argent, elle vous rend la monnaie, vous dites merci, bonne journée, au revoir. Bas, il n'y a que fait. Il n'y a pas besoin de donner la main, de dire bonjour. C'est quoi tout ça? Est-ce que c'est la politesse à l'occidental? Si c'est le cas. Mais réfléchissons, qu'est-ce que le Prophète m'a dit? Comment le Prophète m'a mis en garde contre le fait qu'un homme effleure, que sa peau effleure la peau d'une femme étrangère? Volontairement, bien sûr. Maintenant, que dire de ceux qui font la bise à tout le monde, leurs collègues, là, à droite, à gauche, en haut, Allah Mustaan. Et ça, j'attire l'attention de nos jeunes qui sont au lycée ou au collège, faites très attention à ça. Ne rentrez pas dans ce jeu. Et il y a des limites à fixer quand, au début de l'année. Beaucoup de filles qui me disent, des élèves ou des garçons, qui disent, ben, s'il ne fait pas la bise, on a dit, ouais, sauvage, je vais mal élevé, ou on n'a pas le savoir-vivre. Non, il suffit de fixer les règles au début. Début de l'année, à la rentrée, c'est une parenthèse, dit que, écoute, moi, par rapport à mes convictions, je ne fais pas la bise, ce n'est pas que tu es impur et tout, jamais, hein. On est amis, on travaille, il y a un travail fait en groupe, mais je ne fais pas la bise. Ça, c'est mes convictions. Et j'espère que tu comprendras et que tu respectes, et moi, je respecte tes convictions. Basta. Toute l'année, personne, et ces gens, ces filles-là ne viendront pas vous faire la bise. Moi, j'avais une autre méthode, moi, c'est d'arriver en retard. Ah ben, ça marche. Vous arrivez toujours en retard, ce qui fait que... Hein? Mais je garde cette bonne habitude maintenant tout le temps, en retard, dans toutes les affaires, même namaz. Bon, enfin, bah, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne méthode. Il suffit de dialoguer, d'expliquer. Ah, alors, juste par politesse, on va faire la bise, smack, et tout. Allah, Mustahan, combien de bises par jour et combien de péchés qui sont cumulés comme ça, Allah, Mustahan. On va terminer avec ça. Walladina hum li furujihim hafizun. Où est-ce qu'on est? Après, il y a, Allah Ta'ala parle de aman. Walladina hum li amanatihim wa ahdihim. Après? Ra'un, oui, jazakallah khair. Walladina hum li amanati wa ahdihim ra'un. Là, on parle du respect des engagements, des promesses, des paroles. Là, on parle de quoi? De mu'amala, de la manière de travailler avec les gens, de la parole donnée aux gens. Tout ça, il faut pour accéder à ce paradis où là, ikahumul warithun. Et à la fin, Allah Ta'ala revient, walladina wa ahdihim ra'un. Non, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quand la Torah parle ala salawatihim yuhafizun. Ça, il y avait avant de conclure. Ceux qui restent fermes dans la pratique de la salat. Et ça, c'est intéressant. Nous, on explique qu'au départ, la Torah dit que al-khushu' bis salat, ce qui est requis en premier, c'est la dévotion dans la salat. Et là, on clôture par le fait que ces gens soient réguliers, ne manquent aucune salat. Il veut dire qu'il faut les deux. Et s'il y a une des deux conditions qui manque, la salat, elle est naqisa. La salat, également, il y a une faiblesse. Elle est incomplète. Je peux faire ma salat tout le temps, sans jamais rater. Mais il n'y a pas la dévotion. La salat, il y a un naqs, il y a un manquement. Je peux faire maintenant ma salat quelques fois avec une concentration que je pleure dans chaque salat. Mais si je ne suis pas régulier dans les 5 par jour, la salat, là également, elle est incomplète. Ça, mes chers frères, c'est les conditions. Parce qu'après, l'Allah dit, oulaïkahum l'warithoun. Ces gens-là, ce sont eux qui sont les héritiers qui accèdent au paradis. Donc, le schéma, on a dit, c'est simple. Comme pour un match, gagner, c'est quoi? Pousser le ballon dans le filet. Simple. Mais quand on regarde quelles sont les conditions, il y a des choses à faire. Pareil, mes chers frères. Quand on expliquait, fi jannatin aliya, description, on n'a même pas décrit comment est ce paradis. Mais pour y accéder, mes chers frères, il y a un travail à faire. Et le travail, pour répéter encore, c'est axé sur deux points. Je fais les bonnes actions, mais en même temps, je m'éloigne de ce qu'Allah Ta'ala a rendu haram. Alors, on va s'arrêter là. On a fait les 30 minutes. 37 minutes, c'est suffisant, Inch'Allah. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, juste pour terminer avec un dernier point. Non, mais ça va prendre du temps. Dans Jinnatin Aliyah, on va apprendre ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et puis on expliquera la Tasma'u fiha al-Ariya, ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois, c'est magnifique, comment les cœurs seront lavés le jour avant d'entrer au paradis. Il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de haine. Les gens iront se rendre visite dans le paradis. De nos jours, si j'habite dans un HLM, d'accord, un F2 ou un F2, je vais voir mon voisin ou mon cousin ou mon frère qui lui habite dans un F4. Une vraie maison, pas un HLM. Automatiquement, je vais ressentir quelque chose dans mon cœur. Mon cousin qui habite dans F4, il va voir son tonton qui habite dans une villa. Celui qui habite dans une villa, va voir dans un château, dans une piscine, etc. C'est-à-dire que quand on rend visite aux gens, on voit ce qu'ils ont, ça fait quelque chose sur le cœur. Si on n'a pas ça, on est envieux. Même si ce n'est pas de la jalousie, mais il y a une certaine tristesse qui habite les cœurs. Mais dans le paradis, non, il y aura que ça où les gens vont se rendre visite. Mais il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'envieux, parce que les cœurs seront lavés de tous les défauts qu'il y a. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, qu'Allah nous donne les qualités de ces gens de Qadr al-Hal Mu'minoun, qu'on puisse faire partie de ces gens qui méritent, pas qui méritent, parce que c'est Allah qui donne, ces gens qui seront les héritiers qui vont entrer dans le paradis. Al-Ladina yarithuna al-Firdausa hum fiha khalidun. Qu'Allah nous accepte. La semaine prochaine, on ne fera pas de programme. Il y aura un programme pour ceux qui veulent venir. Il y aura un programme Saint-Louis, Inch'Allah. Ceux qui peuvent venir, on fera un programme de salut et puis on reprendra dans deux semaines. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.